Alors, donc, la troisième intervention de ce matin, c'est donc de Charlotte de Castelnau-L'Étoile. Elle est professeure d'histoire moderne à l'Université Paris Diderot et elle aussi ancienne membre de l'École française de Rome. Et elle a aussi enseigné au Brésil à l'Université fédérale Fluminense en 2010-11. Elle a publié notamment « Les ouvrières d'une vigne stérile, les jésuites et la conversion des Indiens au Brésil ». Et donc, elle a aussi publié « Un catholicisme colonial, le mariage des Indiens et les esclaves au Brésil, 16e et 18e siècle ». Et elle vient tout juste, en fait, demain, va sortir son nouveau livre « Pascua et ses deux maris ». Une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle, donc chez les presses universitaires de France, PUF. Et aujourd'hui, elle va donc nous parler d'une chrétienté peuplée d'Indiens et de Noirs, réflexion sur le processus d'évangélisation au Brésil, XVIe, XVIIIe siècle. La parole est à vous.
Merci. Merci beaucoup, Sanjay Subramaniam, pour cette invitation à parler dans cette enceinte prestigieuse et à écouter des spécialistes de mondes divers dont je ne connais souvent pas grand-chose. Et cet exercice de décentrement et, je n'allais pas dire un exercice d'humilité comme les fous de Dieu de l'islam, mais enfin, c'est toujours un exercice intéressant. Mais alors, je commencerai par parler en introduction, d'une chrétienté locale en voie de globalisation. En 1708, des esclaves africains de la ville de Salvador de Bahia s'adressent au pape en latin pour lui demander son aide contre leur maître, qui ne respecte pas le droit canon concernant le mariage des esclaves, qui stipule l'entière liberté des esclaves de se marier. Je lis. « Les esclaves africains de la Bahia, des deux sexes, se plaignent qu'ici ou là, les maîtres leur interdisent de contracter mariage par des coups et des menaces, et qu'ils sont forcés malgré eux au célibat. Les esclaves supplient très intensément le très saint seigneur pape qu'il veuille tourner avec sollicitude les yeux sur ce malheureux petit troupeau, qu'il veuille procurer un remède opportun à de telles souffrances. » La pétition est accompagnée d'une lettre d'un jésuite italien en route vers l'Inde et qui, profitant de son escale à Salvador de Bahia, a décidé de prêter main forte aux esclaves, sans doute en mettant en forme leur pétition, en la traduisant et en l'envoyant par ses réseaux jusqu'à Rome, où elle repose encore dans les archives de la Propaganda Fide, où je l'ai trouvée. La pétition des esclaves africains est un bel exemple de questions religieuses et d'histoire globale de la première modernité. L'histoire globale, elle est là, avec ces hommes et ces femmes qui se disent originaires d'Afrique noire, Éthiopie en latin, qui ont été déportés en terre américaine sous autorité portugaise et qui écrivent dans une langue internationale au chef de l'Église catholique à Rome, par l'intermédiaire d'un Italien en escale vers l'Inde. C'est bien un document qui s'inscrit dans les quatre parties du monde, et je rappelle que cette expression, avant d'être un manifeste de l'historiographie globale, était le titre donné en 1633 par le cardinal Ingoli, secrétaire général de la congrégation de la Propaganda Fide. L'histoire globale, elle y est. La question religieuse, elle est là aussi dans ce document qui témoigne tout à la fois de la conversion de ces esclaves au christianisme, de points ardus de la théologie et du droit canon, comme la question du libre accès au sacrement, la nature du mariage qui repose sur l'expression d'un libre consentement de l'homme et de la femme. Le geste même de la pétition signifie que les esclaves reconnaissent l'autorité suprême du pontife romain, ont adopté la rhétorique et le droit de l'Église pour se défendre contre la violence de la domination esclavagiste. Ce document, découvert il y a une quinzaine d'années, accompagne depuis lors ma réflexion qui mêle histoire religieuse et histoire globale à partir du cas du Brésil. Pour penser cette question de la diffusion du catholicisme à l'époque moderne à une échelle globale, il peut être utile de la comparer à ce qui s'est passé à l'époque antique et médiévale, lors du premier millénaire. Et j'utiliserai ici Peter Brown pour comprendre la naissance de la chrétienté occidentale. Enfin, disons que la question que pose Peter Brown pour comprendre la naissance de la chrétienté occidentale est comment concilier la chrétienté, l'idée de chrétienté universelle, avec un monde fortement régionalisé. Le monde dont il parle, du 3e à la fin du 11e siècle, évoque Carthage, Rome, la Gaule, l'Hispanie, l'Irlande, la Frise, la Germanie, qui étaient des mondes extrêmement différents et qui passent au christianisme au cours du premier millénaire. Peter Brown insiste sur le fait que ce monde a une unité, mais aussi bien sûr une très grande diversité, et il articule toujours les deux dimensions de local et de global. Le diocèse, explique-t-il, est l'unité de base de ce christianisme, un module de base, souligne-t-il, constitué de l'évêque, du clergé, d'une communauté et d'un lieu pour adorer Dieu. C'est ça le module de base de cette chrétienté qui peut être soumise à de nombreuses variations locales dans toutes les régions du monde, connues de l'époque. Il souligne que la liturgie, les saints restent locaux, mais qu'est-ce qui fait l'unité de ce monde ? Bon, la reconnaissance de la suprématie d'un évêque sur les autres, l'évêque de Rome, mais cette suprématie est bien lointaine dans la vie des chrétiens du premier millénaire. Pour Peter Brown, ce qui est plus important, et je le cite, « Par-dessus tout, les chrétiens adoraient un Dieu qui, par de nombreux aspects, était au-dessus de l'espace et du temps. Dieu et ses saints pouvaient toujours être pensés comme complètement présents aux croyants, quel que soit le lieu où il ou elle se trouvait. Dans le monde élevé de Dieu, il n'y avait pas de distinction entre le centre et la périphérie. Selon les mots des actuels habitants de Juazeira, un sanctuaire perché dans un coin éloigné du nord-ouest du Brésil, les croyants chrétiens pouvaient être sûrs que même s'ils habitaient un bout du monde, qui dans l'Europe occidentale de cette période était concrètement la côte ouest de l'Irlande, ils avaient le paradis au-dessus de leur tête et l'enfer sous leurs pieds. Peter Brown propose ici une double clé pour comprendre la diffusion du christianisme, l'articulation du local et du global. Un message religieux universel joint à un module de base simple, facilement transférable. Le diocèse est à l'origine de cette chrétienté occidentale qui se décline en micro-chrétienté locale. Certes, le monde dont parle Peter Brown n'est pas celui de la première modernité, mais la comparaison que fait l'historien de l'Antiquité entre la côte occidentale de l'Irlande pendant le premier millénaire et le sanctuaire brésilien du nord-est du Brésil est une invitation à croiser les périodes et les lieux. Pour comprendre comment la religion chrétienne s'est globalisée à l'époque moderne, le modèle de la micro-chrétienté qui se projette dans une forme d'universalité à la fois terrestre et céleste que propose Peter Brown me semble ainsi essentiel. Et donc c'est cette micro-chrétienté, dont on va voir qu'elle n'est pas si micro sur le plan spatial, que je vais vous présenter ici, cette chrétienté brésilienne. Je l'analyserai à partir de ce qui fait sa spécificité, la présence des Indiens, mais aussi rapidement de très nombreux Africains. Je chercherai à montrer que cette chrétienté peuplée d'Indiens et de Noirs n'est pas une vision reconstruite, mais c'est celle des contemporains, la vision de Rome, centre de la chrétienté occidentale, la vision de la royauté portugaise qui a la charge du patronage, c'est-à-dire de l'organisation temporelle de cette église d'outre-mer. C'est aussi la vision des acteurs locaux, les ecclésiastiques, mais aussi les chrétiens indiens et noirs qui composent cette chrétienté particulière. Alors, en trois points, si vous voulez, je vais développer ce point. Donc, la première partie sera sur le Brésil vu de Rome comme une chrétienté peuplée d'Indiens et de Noirs. Ensuite, les acteurs locaux, les missionnaires. Et en troisième partie, les chrétiens indiens et noirs de cette chrétienté. Alors, j'ai parlé de l'importance du diocèse, et donc c'est par la création du diocèse de Salvador de Bahia que je commencerai et qui marque la naissance du Brésil en tant que chrétienté locale. Toutes les terres de l'outre-mer conquises par le roi du Portugal avaient été mises en 1514 sous l'autorité, c'est pas situé, du diocèse de Funchal dans les îles Madère. En 1534, le diocèse de Goa est fondé et sa juridiction s'étend sur toutes les terres au-delà du cap de Bonne-Espérance. En 1551, le diocèse de Salvador de Bahia est créé, donc ce n'est plus Madère la référence pour le Brésil, c'est le diocèse de Salvador de Bahia qui est placé sous la tutelle de l'archevêché de Lisbonne. Le texte de la bulle est très long, il détaille tous les pouvoirs que reçoit la nouvelle cité épiscopale. Il s'agit d'une délégation du pouvoir apostolique que le pape, évêque de Rome, confie à Pedro Fernandez, un bachelier en théologie, prêtre du diocèse d'Évora, qui a fait un séjour à Goa et qui est le premier évêque du Brésil. Le texte de la bulle, je ne vais pas le lire, évoque expressément les Indiens, c'est pour ça que je le cite, dans la région du Brésil, qui était peuplée, sous-entendu avant l'arrivée des Portugais, de barbares, de païens et d'autres nations sauvages. J'attire l'attention sur le terme « Brésil ». Le premier nom donné par les Portugais à cette terre, accostée lors du second voyage de Vasco de Gama vers l'Inde en 1500, fut la terre de la Sainte Croix, un nom religieux qui n'a pas été gardé. Le mot de Brésil est même par la chancellerie pontificale. Le mot de Brésil, qui vient de la richesse en bois de teinture, s'est imposé rapidement à cause du commerce. Brésil, dans le texte de la chancellerie pontificale, renvoie donc à un espace colonial marchand où l'on extirpe le bois grâce à la main-d'œuvre indienne. Et c'est cet espace concret qui est fondé en tant que micro-chrétienté. La mort tragique du premier évêque en 1556, tué et sans doute mangé par les Indiens lors du naufrage de son navire sur le littoral, confirme le fait que les Indiens sont encore indomptés. Si l'on poursuit l'enquête sur cette vision du Brésil dans les textes émanant du centre romain, on peut dater de 1585 le moment où la papauté prend conscience que ce Brésil n'est pas non plus, non, est non seulement un monde peuplé d'Indiens, mais aussi d'Africains. Et c'est très tôt dans l'histoire du Brésil. Bien, je ne développerai pas l'importance du point de vue du droit canonique de cette bulle qui touche un point de dogme. Elle autorise le remariage des nouveaux convertis, alors que dans toute la tradition chrétienne, il est précisé que les convertis doivent garder leurs anciens conjoints du temps de l'infidélité. Je ne développe pas. Ce qui me paraît important, c'est la reconnaissance par la papauté de cet espace que j'ai mis en gras, oui, Angola, Éthiopie, Brésil. Reconnaissance d'un espace désigné par ses toponymes et pour lequel il faut légiférer. Quel est cet espace? Eh bien, c'est l'espace défini par la traite et l'esclavage. Un Brésil esclavagiste où se retrouvent des captifs, tant indiens que africains. Et la bulle n'emploie pas le terme d'esclave, elle emploie le terme de gens déportés au loin. Hein, et j'insiste pour dire que ce sont aussi des Indiens déportés au loin. Il y a une traite intérieure et une traite extérieure. Pour ce monde de captifs, la papauté autorise le remariage des convertis. Elle reconnaît ainsi de fait que l'esclavage sépare les couples sans possibilité de les réunir. Cette bulle n'est pas sortie tout droit de l'esprit du pape Grégoire XIII, un prélat et un prince romain, mais elle est le fruit d'un intense travail de lobbying des jésuites du Brésil, d'Angola et du Portugal, qui ont réfléchi à partir de descriptions sur les coutumes matrimoniales des Indiens du Brésil et des Angolais. L'intérêt pour les jésuites était aussi de faire reconnaître indirectement l'existence d'une société tout à la fois pleinement catholique et profondément esclavagiste, comme le Brésil. La décision pontificale est reçue en 1585 par des manifestations de grande joie par les pères jésuites de Salvador de Bahia, qui espèrent ainsi faire taire les quelques oppositions sur l'existence de cette traite entre l'Angola et le Brésil. Alors, troisième document provenant de Rome. Oui, donc là, cette carte prise dans le livre de Alain Castro qui montre cet espace de la traite que l'on retrouve dans la bulle pontificale. Hein. Angola, Éthiopie, ce n'est pas la même Éthiopie que celle que Camille Rouspétel vient de nous présenter, c'est l'Éthiopie au sens d'Afrique noire et qui représente plutôt la côte de la mine et la Guinée ici, et bien sûr le Brésil. Alors, le troisième document que je voulais évoquer, c'est un texte de Ingoli, justement, dans l'ouvrage « Les quatre parties du monde », le secrétaire de la Congrégation pontificale de la Propaganda Fide, qui fait une description du monde très précise. Hein, on voit combien la papauté est informée. Et voilà ce qu'il écrit sur le Brésil en 1633. « Au Brésil, les peuples sont assez durs et difficiles à dominer. » Il reste encore de grandes régions de païens, terme utilisé est gentil, et d'autres où ils sont mélangés avec des chrétiens. Tous s'occupent à la conversion, ce sont les missionnaires, des natifs païens, mais aussi des noirs qui, de la Guinée au royaume d'Angola, sont amenés là. Donc là encore, depuis son palais romain de la Piazza d'Espagna, le cardinal Ingoli est très bien informé. Il note la présence des noirs et le fait que la domination sur les Indiens n'est pas encore fermement acquise. Il ajoute aussi, on est en 1633, que les Hollandais ont pris une partie de ce Brésil des Portugais. La classification opérée par Ingoli entre Indiens dominés et Indiens convertis et noirs est exactement la même que celle que le peintre Eckhout, qui accompagne le gouverneur du Brésil hollandais, fait de la population du Brésil en 1641. 8 tableaux, hein, qui sont de très grande taille, plus grand qu'au naturel, propose des portraits de couples, et j'insiste, parce que je vais revenir sur la notion de couple, des Indiens Tapuya, Indiens non dominés, les Indiens, les Noirs, les Indiens Tupi, Indiens coloniaux, et devenus vassaux du roi du Portugal, et enfin les Mamelucos, qui sont les Métis de blancs et d'Indiens. Ainsi, pour le prélat de la curie romaine et pour le peintre hollandais, le Brésil des années 1630-1640 est constitué d'une population indienne qui peut être déjà chrétienne ou encore païenne et d'une population noire qui est convertie. Alors, je reviens en quatrième document sur cette carte que je n'avais pas commentée, qui est une carte d'un Atlantique portugais et catholique. Qui est la carte de João Teixeira Albernaz du milieu du XVIIe siècle, un Atlantique catholique sur lequel veillent trois figures disposées dans un triangle, Notre-Dame de la Conception en haut, Saint-Antoine le franciscain de Lisbonne, mort à Padoue, mais que le Portugal considère comme portugais, et la croix dressée sur le Congo, royaume chrétien depuis 1491. Cette carte est intéressante aussi car elle évoque, elle est antérieure, mais la nouvelle carte ecclésiastique, elle montre ce qu'il y a dans l'esprit, disons, des contemporains. La nouvelle carte ecclésiastique, redessinée par la puissance coloniale et par Rome, après leur réconciliation, en 1679, après la restauration du Portugal. Et dans cette nouvelle carte ecclésiastique que je n'ai pas présentée ici, eh bien, ce n'est plus... Salvador de Bahia devient archevêché, hein, c'est-à-dire qu'elle gagne un degré d'autonomie par rapport à Lisbonne. Elle est désormais pratiquement directement dépendante de Rome. Deux nouveaux diocèses sont créés à Olinda et à Rio de Janeiro. Et cette province ecclésiastique, comme on dit, eh bien, elle englobe aussi le diocèse de Saint-Thomé, l'île du golfe de Guinée, et le diocèse d'Angola-Congo. Donc on a là aussi cette même géographie hein, qui relie Brésil et Angola dans un rapport à la fois atlantique, esclavagiste et catholique. Donc d'un point de vue administratif, la chrétienté du Brésil est une chrétienté atlantique ouverte sur l'Afrique à cause de la traite massive. C'est aussi une chrétienté ouverte sur un territoire en expansion vers les terres intérieures et les peuples indiens encore insoumis. C'est comme le souligne Ingoli, une chrétienté toujours missionnaire qui cherche à convertir natifs et noirs. Et c'est important de souligner cette dimension toujours missionnaire aussi vers l'intérieur. Le Brésil n'a pas une conquête achevée comme le cas du Pérou ou du Mexique. C'est toujours un espace en construction par rapport à des tribus indiennes de l'intérieur. Donc, je passe à ma deuxième partie. J'aimerais évoquer ici rapidement le travail missionnaire des acteurs ecclésiastiques locaux. En insistant, donc c'est cela dont parlait Ingoli tout à l'heure, tous ces ordres missionnaires, en insistant sur la spécificité de ce monde peuplé de Noirs et d'Indiens. Et j'analyserai le travail missionnaire en trois points. La question des langues, la traduction de la doctrine chrétienne, la question de l'administration des sacrements et la question très rapidement évoquée de la production d'un imaginaire chrétien sur ce monde peuplé de Noirs et d'Indiens. Donc la question est d'abord de la langue, traduire la langue chrétienne, lingua brasilica, lingua cariri, lingua kimbundu. Voici les trois langues, il y en a d'autres bien sûr, principales de cette conversion de la doctrine chrétienne. Donc la prédication et l'enseignement de la doctrine chrétienne supposent de la part des missionnaires un apprentissage des langues indigènes. Ils ont constamment à la pensée l'image de la Pentecôte et de l'Esprit-Saint en voyant le don des langues aux apôtres. Mais les missionnaires reconnaissent que cet apprentissage dans la réalité est long et difficile. Et les catéchismes et les grammaires sont les témoignages de cet intense travail linguistique. Alors, quelles sont les langues nécessaires pour prêcher dans le Brésil? Tout ça dépend des périodes. Donc, au XVIe siècle, la langue la principale était ce que Vieira appelle la langue brésilienne et générale, sur lequel je vais revenir. Mais là, je suis partie de l'année 1688. Le vieux père Antonio Vieira, âgé de 80 ans, prêche un sermon d'exhortation pour les jeunes frères et pères de la province pour qu'ils retrouvent l'élan missionnaire qu'ils ont perdu. Dans son passage, il évoque l'existence de cinq langues nécessaires pour la mission du Brésil. La langue portugaise, qui doit permettre par tous les moyens de réformer les Portugais. La langue éthiopienne, avec laquelle rien que dans cette ville, Salvador de Bahia, on enseigne la doctrine et catéchise 25 000 nègres. Sans parler de la multitude de ceux qui habitent en dehors de la ville, les langues des Tapuya, grâce auxquelles, au plus profond des terres, même les plus reculées, on a instauré des nouvelles chrétientés, des Indiens payas et des Indiens kiriri. Et finalement, la langue brésilienne et générale. Cette langue brésilienne est celle des Indiens de la côte, à laquelle s'était consacré le jeune jésuite José de Anchieta, à son arrivée au Brésil en 1553. Il avait été l'auteur d'une grammaire, écrite dès 1556, publiée à Lisbonne en 1595, sous le titre « Arte de Grammatica da Lingua Mais Usada na Costa do Brasil ». Cette langue ne faisait référence à aucun ethnonyme. Elle n'est devenue connue par les ethnolinguistes sous le nom de langue toupie qu'au XIXe siècle, mais elle était présentée comme une langue générale. Vieira la présente comme quasi morte dans le Brésil de la fin du XVIIe siècle. En fait, elle est encore parlée et surtout, elle est diffusée pour les besoins de la colonisation en Amazonie, à partir du XVIIe siècle, où elle prend le nom de langue Ningatu, où elle va devenir la langue générale de l'Amazonie, qui était une babel linguistique, pour reprendre l'expression de Vieira. Parmi les autres langues dont parle Vieira, il y a la langue Cariri, qui a été mise en grammaire et en catéchisme par à la fois les capucins français qui travaillaient dans le Rio San Francisco, c'est-à-dire le sertão du Brésil, l'intérieur des terres, et par les jésuites. Et bon, je n'ai pas le temps de lire ce passionnant passage sur le travail linguistique des missionnaires, mais je voulais juste insister pour montrer que l'expression de Martin de Nantes, sans ce travail linguistique, il est impossible d'en faire de véritables chrétiens, puisque c'est d'être barbare à barbare. Seraient des perroquets qui diraient ce qu'on leur aurait appris par mémoire sans le concevoir, et par conséquent sans foi et sans connaissance. Voilà le catéchisme de la langue cariri, publié par Bernard de Nantes en 1709 à Lisbonne. La dernière langue dont parlait Vieira était la langue éthiopienne. En fait, il s'agit d'une langue bantoue, de la langue Kimbundu, langue de l'ancien royaume Ndongo, dont les Portugais ont occupé une partie et nommée Angola, à partir de 1575. La langue Kimbundu, la langue de l'Angola, comme on l'appelle à l'époque, est intéressante parce qu'elle acquiert progressivement un statut de langue générale au Brésil à cause de la présence massive des esclaves. Et cette grammaire de la langue de l'Angola, publiée à Lisbonne en 1697, est l'œuvre d'un père jésuite, Pedro Dias, portugais, arrivé enfant au Brésil et qui n'a jamais été en Afrique. Il a appris la langue de l'Angola au Brésil avec l'aide des esclaves et de jésuites du Brésil nés en Angola. Elle est écrite, comme le dit la préface, pour ceux qui travaillent en Angola et au Brésil, auprès des esclaves africains, et elle est dédiée à Notre-Dame du Rosaire, patronne des esclaves. Donc ce travail linguistique missionnaire reflète cette spécificité de cette chrétienté locale, constituée de néophytes à la fois indiens et africains, et donc cette production d'œuvres linguistiques le souligne. Alors, l'autre volet de l'évangélisation, hein, si on la prend à partir du point de vue des missionnaires, c'est l'administration des sacrements. Le sacrement doit être administré correctement pour être pleinement efficace. Et le prêtre, c'est-à-dire le missionnaire dans ces cas-là, est responsable de cette bonne administration. Il est censé rendre des comptes à Dieu de cette administration des sacrements. Les missionnaires ont donc des doutes et ils envoient à la hiérarchie des questions sur leur pratique et sur la manière d'administrer le plus correctement possible ces sacrements. Alors j'en ai pris un dans une liste de 53 qui est intéressant parce qu'on est dans les années 1580. Il évoque à la fois les esclaves et les Indiens. Donc, le doute consiste à savoir s'il faut donner le sacrement de l'Eucharistie aux Indiens et aux Indiennes. Et le texte évoque le fait qu'il n'est pas besoin de le donner, c'est les missionnaires qui ont ces doutes. Donc, ils avancent l'idée que pour des raisons d'ignorance, de frivolité, d'inconstance des Indiens convertis, n'ont pas à recevoir l'Eucharistie. Ils expliquent aussi qu'il y a un scandale que cette distribution d'Eucharistie suscite chez les hommes, c'est-à-dire chez les colons portugais. Et là, bon, c'est un point important parce que dans l'Europe de la même époque, hein, la question de savoir qui a accès à l'Eucharistie est aussi une question, hein, en Europe. On ne communique une fois par an et tous ceux qui sont en état de péché mortel, hein, c'est-à-dire beaucoup de gens en fait, et notamment tous les concubins, etc., n'ont pas le droit de recevoir l'Eucharistie. Alors, transplanté dans une société coloniale, cela donne cette série de doutes avec une société coloniale dont on voit qu'elle est divisée en groupes ethniques, en statuts juridiques, et aussi entre néo-chrétiens et vieux chrétiens. Dans les cas des nouveaux chrétiens, on a des doutes en tant que groupe, alors que pour les vieux chrétiens, on ne se pose pas la question, sauf à titre individuel. On voit aussi dans ce doute qu'il y a donc peut-être un consensus sur la forme de cette société, divisée en groupes ethniques, divisée en libres et en esclaves, divisée en nouveaux et en anciens chrétiens. Il y a aussi des formes d'opposition. Colons et jésuites s'opposent, hein, sur cette question de l'Eucharistie. Au sein de l'Église, prêtres séculiers et jésuites ne sont pas forcément d'accord. Missionnaires de terrain et professeurs de théologie au sein du même ordre ne le sont pas non plus, puisque la réponse du professeur de théologie est très claire. Si le confesseur trouve que les Indiens de la terre et les gens de Guinée sont capables de recevoir le Très-Saint-Sacrement, il y a obligation de les envoyer le recevoir comme s'ils étaient des hommes blancs. Donc on retrouve ce message d'universalisme chrétien, mais exprimé dans les termes de cette société locale très particulière. Le dernier point que je voulais aborder dans cette deuxième partie, c'est la question de la production d'un imaginaire chrétien, de cette chrétienté de Noirs et d'Indiens. Le programme de conversion des Indiens est toujours envisagé sous un angle double, que ce soit par le cardinal Ingoli ou que ce soit par les ecclésiastiques du Brésil, sous l'angle à la fois de la domination et de la persuasion. Convertir ces populations, c'est les faire passer sous le régime de la loi chrétienne, les faire devenir des vassaux de la couronne du Portugal, les incorporer au sein d'une société catholique à une place, certes subalterne, mais faisant partie de la société elle-même. Et donc j'aimerais insister là sur deux visions proposées par des jésuites. Pero Rodriguez, dans La vie d'Anchieta, donc ce jésuite qui a écrit la première grammaire et qui était très proche des Indiens, et dont les jésuites du Brésil ont voulu faire un saint, donc première vie de saint, 1597. Avec la religion catholique, il faut être patient, parce qu'il a été canonisé en 2000, je crois. Hein, donc ça a fini par fonctionner. Mais donc, ça a été très long. Et voilà ce qu'écrit Pero Rodriguez. Un tableau édifiant d'une chrétienté où les Indiens ne sont plus nus et sauvages, mais devenus des sujets chrétiens. Voilà, les femmes, quant à elles, doivent aller à l'église et se vêtent fort décemment, à savoir avec une chemise ou un habit fort bien fait, fermé, ample et long jusqu'au sol. Les hommes, en général, vont avec le vêtement qu'ils peuvent, mais à l'église, nombre d'entre eux se vêtent à la portugaise. Et le texte, j'ai coupé, ajoute « ils sont comme des soldats bien payés ». Telle est la vie des Indiens du Brésil une fois qu'ils ont été éclairés par la lumière de l'Évangile. Tel est le fruit qui se recueille dans les greniers de l'église de ses travaux, depuis plus de 50 ans dans cette contrée. Hein, j'insiste bien sur l'imaginaire chrétien. J'avais évoqué dans mes premiers travaux, dont Sanjay Subramaniam a parlé, les ouvriers d'une vigne stérile. L'image de la vigne stérile était bien plus fréquente dans les sources, mais là, on est dans une source hagiographique. Donc, on peut imaginer une chrétienté parfaite. Et cette chrétienté parfaite, ce sont des Indiens chrétiens, soumis, soldats du pouvoir portugais, remparts contre les puissances étrangères, les Indiens sauvages et les esclaves fugitifs. J'utiliserai Vieira pour évoquer la vision aussi rêvée d'une chrétienté de Noirs. C'est le sermon que prêche Vieira en 1633 dans une église de la Bahia, un texte inlassablement écrit et publié au cours du XVIIe siècle. En 1688, on l'a vu, il est en train de publier ses œuvres complètes, donc ses sermons sont toujours retravaillés. Et je lirai juste la fin. « Et les Noirs, comme tous les chrétiens, bien qu'ils aient été gentils, c'est-à-dire païens, et qu'ils soient esclaves, par la foi et le baptême, ils sont incorporés au Christ et sont membres du Christ. À cause de cela, la Vierge Marie, mère du Christ, est aussi leur mère, parce qu'elle ne serait pas mère de tout le Christ si elle n'était pas mère de tous ses membres. » Telle est donc la vision rêvée de ces deux grandes figures, jésuites du Brésil, une chrétienté faite d'Indiens et de Noirs soumis, incorporés au corps de l'Église et de la société. J'ai utilisé les jésuites, mais on pourrait utiliser les franciscains, les carmes, qui participent aussi de cette projection d'un monde colonial en chrétienté unie, avec notamment des travaux autour de figures de saints. Mais je ne veux pas m'appesantir sur cette vision produite par les ecclésiastiques, et je voudrais dans une troisième partie aborder la chrétienté locale à partir de ses acteurs subalternes, ces chrétiens indiens, noirs ou métis, esclaves, affranchis, libres, souvent dépendants. Alors, pour ces hommes qui occupaient des positions subalternes dans la société coloniale, que signifiait être chrétien? Quel type de relation avait-il avec l'Église? Les réponses sont bien sûr variées et les travaux universitaires sont actuellement nombreux sur le sujet. Je développerai quelques cas en utilisant surtout mes travaux sur les stratégies matrimoniales des Indiens et des esclaves dans le Brésil du tournant du XVIIe et XVIIIe siècle. Et la pétition que j'ai citée en introduction renvoie bien sûr à ces Indiens et Noirs chrétiens, acteurs de la société coloniale. Je vais développer maintenant deux portraits de couples. Et je me suis inspirée finalement des portraits de Ekaout, hein, qui lui aussi avait présenté les personnages du Brésil par couple, homme et femme. Hein, je pense que c'est très important cette idée de couple et d'homme et femme, parce que c'est cette projection autour de l'idée de société. Alors, le premier couple, c'est Pascoa l'Angolaise et Pedro Arda. L'histoire de Pascoa et de Pedro, sur lequel je viens d'écrire un livre, est un exemple exceptionnellement documenté de ces noirs chrétiens. Pascoa est née en 1660. C'est une esclave chrétienne mariée en Angola, puis embarquée en 1686 pour le Brésil à cause de son inconduite conjugale. Elle se marie à Salvador avec un esclave de son maître bayanais et elle est dénoncée pour bigamie par son maître à l'Inquisition en 1693. Car reconnue par un cousin de son maître qui venait d'Angola. Pedro, ah oui, c'est pour ça que je voulais vous montrer la carte, excusez-moi. Pedro, son mari, est moins connu qu'elle, puisqu'il n'a pas eu un procès inquisitorial, mais il est sans doute créole, né au Brésil, mais son nom, Pedro Arda, qu'il emploie toujours dans les sources, renvoie au puissant royaume d'Alada, voisin du Dahomey, sur la côte de la Mina, sur l'actuelle côte du Bénin. Et c'est un nom important, c'est le berceau de la religion des Vaudous, hein, Alada. Alors je reviendrai sur donc, deux Africains de deux Afriques différentes. Je reviendrai sur deux épisodes de leur histoire de couple, leur mariage et leur défense de leur mariage. Alors leur mariage, voilà le document écrit par un curé qui les a mariés en 1688, un document qui atteste que les deux conjoints se sont mariés, pas longtemps après l'arrivée de Pascoa au Brésil. Il n'y a pas de trace que le maître a assisté à la cérémonie. Et j'insiste sur le fait que tous les témoins dans ce mariage sont des esclaves ou des Noirs. C'est donc une cérémonie simple entre gens du même monde, le monde des Noirs de la ville de Bahia, avec pour garant le curé de l'église. Le deuxième document est la défense de leur mariage. Bon, il y a beaucoup de péripéties, je vais essayer d'aller vite, mais en 1697, les deux conjoints ont été séparés. Enfin, disons, ils ont été séparés en 1693 après la dénonciation à l'Inquisition. Et en 1697, ils essayent une tentative pour être réunis. Et je vous rassure tout de suite, ils vont réussir. Et donc, pour arriver à faire cette réunion, Pedro Arda va se présenter au tribunal ecclésiastique de l'archevêque de Salvador et va lui dire qu'il a été privé de l'usage du mariage avec son épouse, hein, je prends le texte, et que c'est une injustice. Et il a été privé et il demande à être réuni pour le préjudice de son âme, pour le manque de consolation de son esprit et à cause du grand amour qu'il a pour elle. Hein, il souffre de ne pas pouvoir profiter de l'usage du mariage, c'est-à-dire la vie commune. Et il demande à son Excellence, par les plaies du Christ, pour le service de Dieu, d'obliger l'ancien maître qu'il a vendu de les laisser vivre ensemble. Hein, et finalement, l'ancien maître va accepter sous les ordres de l'archevêque et les deux époux vont se retrouver ensemble. Ils ne vont pas être achetés par le même maître, hein, mais ils vont pouvoir se retrouver le soir pour vivre ensemble. La démarche nous paraît osée. Elle, apparemment, n'était pas exceptionnelle, hein, puisque l'archevêque accepte. En effet, le droit canon insiste sur le fait que la vie matrimoniale est un droit pour tous ceux qui sont mariés légitimement. Bon, dans ce texte que Pedro Arda fait écrire, cela montre qu'il estimait que l'Église pouvait lui accorder une protection dans cette société esclavagiste, sinon il n'aurait pas entrepris cette démarche. Il s'est emparé des instruments juridiques du droit canon et il a fait sienne la rhétorique de l'Église sur le mariage. 4 ans plus tard, devant l'Inquisition de Lisbonne, Pascoa raconte pour sa défense sa vie de chrétienne. Elle a été baptisée en Angola, mais elle n'a été vraiment instruite dans la foi chrétienne qu'après son arrivée au Brésil à 26 ans. Elle qualifie son premier mariage, célébré dans la brousse angolaise par un capucin italien, de cérémonie des anneaux et non de vrai sacrement basé sur l'échange de consentement. Donc ça, c'est un point important parce qu'elle souligne le fait qu'elle est déjà évangélisée en Angola, mais elle devient vraiment chrétienne qu'au Brésil. Le couple que forment Pascoa et Pedro est représentatif de ces chrétiens noirs du Brésil dont les trajectoires éminemment complexes se sont forgées dans le monde global de la première modernité. Pour finir, je finirai par un autre couple emblématique de cette chrétienté d'Indiens et de Noirs, mais plutôt côté indien. En 1719, Sébastien Pereira se présente au tribunal ecclésiastique de Rio de Janeiro. Il se déclare indien et homme libre et il veut épouser Isabelle, une cabra, c'est-à-dire une métisse d'Indiens et de Noirs, qui est l'esclave d'un prêtre. Il y a donc une différence de conditions juridiques. Lui est libre, elle est esclave, qui n'est pas en principe un obstacle au mariage, mais il lui faut une autorisation spéciale pour se marier. Le juge ecclésiastique n'a pas le registre de baptême de Sébastien Pereira et il lui demande s'il est baptisé. Grâce à cette question, nous avons un récit de vie tout à fait passionnant. Il déclare être un homme du gentil, de la terre, originaire, dit-il, du Sertan, de la côte du Maragnan, fils de parents sauvages de ce Sertan, dont il ne sait pas les noms, car ils étaient païens. Et lors d'une conquête que firent les Blancs sur cette côte et ce Sertan, ils le capturèrent et l'emmenèrent dans un village où il fut baptisé. Et comme il était tout petit, il ne sait le nom de la paroisse où il a reçu l'eau du baptême, mais il est certain qu'il est baptisé. Il est resté ensuite en compagnie d'un religieux avec qui il est passé aux mines de Ouro Preto, puis dans celle de Sabara. Là, devenu petit homme, il gagnait sa vie dans les mines et il s'est agrégé à la compagnie du père Francisco de Araújo Torino. Et il était célibataire. Sébastien était né hors du territoire colonial. Il a été fait captif, enfant, au cours d'une conquête des Blancs. Au début du XVIIIe siècle, le baptême est encore lié à la soumission au monde des Blancs. C'est bien une conquête toujours en cours. L'Indien parle de son baptême comme d'une évidence dont il n'a jamais douté. Vivant parmi les Blancs, il ne peut être que baptisé. Il a toujours vécu dans la dépendance de prêtres, ce qui explique sans doute sa connaissance des rouages du tribunal ecclésiastique et son aisance face à ses juges. Même s'il vit dans la dépendance d'un maître blanc en tant qu'Indien, il est un homme libre. Depuis la loi de 1680, l'esclavage des Indiens est officiellement interdit dans la colonie. Son parcours de vie montre qu'il a littéralement traversé le Brésil. Né dans le Sertan du Maranhão, il a vécu dans les mines d'or de Sabará et d'Ouro Preto, vous voyez, et il se trouve désormais à Rio de Janeiro. Donc, il y a plus de 2800 km qu'il a parcouru dans ce Brésil intérieur. Il signe à l'occasion de son passage au tribunal ecclésiastique, comme tous les hommes libres qui épousent des esclaves, un termo de seguimento, c'est-à-dire un engagement à suivre son épouse là où le maître de son épouse l'enverra ou le vendra. Donc pour le maître, c'est un nouveau dépendant, encore plus fortement qu'avant, puisqu'il est désormais lié par papier aussi. Et l'engagement précise que tous les enfants issus de cette union seront esclaves, selon le principe juridique de la loi du ventre. Sébastien décrit ses parents comme des sauvages et des païens dont il ne sait même pas le nom. Lui-même est un Indien chrétien libre, avec un nom totalement portugais, Sébastien Pereira, difficile de savoir qu'il est un Indien, sauf s'il raconte sa vie. Ses enfants à venir seront eux des pardos, c'est-à-dire des métis de couleur sombre, et ils seront esclaves, avec eux aussi des noms portugais. On a là, en raccourci, à l'échelle d'une vie et de trois générations, le processus de la colonisation et de l'invisibilisation des Indiens du Brésil, qui passent de la liberté à la dépendance et qui deviennent invisibles, du moins dans les sources, en se fondant par le mariage interethnique dans la masse des pardos et des dépendants. Si l'entrée dans la société coloniale s'est faite par un processus violent de capture, de conquête et d'imposition du baptême, Sébastien, dans son témoignage, n'agit pas sous la contrainte. C'est de son plein gré qu'il a choisi d'épouser Isabelle, l'esclave. Ce mariage l'ancre certes davantage dans la dépendance d'un maître, mais en retour lui assure des formes de sécurité dans cette société coloniale. Sa liberté et son statut de chrétien sont clairement reconnus par le tribunal ecclésiastique auquel il s'adresse. Donc, ces deux trajectoires de couple vous montrent la complexité de ces trajectoires. Hein, et évidemment, et je n'entrerai pas là-dedans maintenant, les croyances de ces chrétiens noirs et indiens ne ressemblent sans doute guère à celles des chrétiens européens de la même époque. Hein, elles sont bien sûr le fruit de mélanges de croyances amérindiennes et de croyances africaines, mais ces deux couples se proclament, sont chrétiens et agissent en tant que chrétiens. Hein, donc je ne développerai pas la question des croyances, ça serait tout un autre thème. Donc telle est la chrétienté locale brésilienne de l'époque moderne, fruit d'un monde globalisé, dans une certaine mesure, d'un monde fait de multiples circulations et d'entrecroisements entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Cette chrétienté locale est particulière, même si d'autres lui ressemblent. Cependant, nulle part comme au Brésil, le lien avec l'Afrique n'est aussi fort en Amérique. Le Brésil a ce lien avec l'Afrique, mais aussi est un espace de frontière sur un monde indien encore largement insoumis. Cette chrétienté brésilienne, construite dans le rapport colonial, hein, être chrétien signifie d'être rentré dans le monde de la domination des Blancs, soit de gré, soit de force. Dernier point, cette chrétienté construite à l'échelle de l'Atlantique Sud et du sous-continent sud-américain appartient à un monde plus large, la chrétienté occidentale. Ce sont les mêmes références, la même rhétorique, le même droit. Ecclésiastiques, mais aussi simples fidèles, blancs, noirs ou indiens, proclament leur fidélité à Rome, tout en vivant dans un monde absolument différent. C'est donc à travers cette articulation du local et du global que l'on peut appréhender la chrétienté brésilienne à l'époque moderne. Merci.
Bon, je vais juste vous poser une petite question pour démarrer. Alors, je sais que depuis relativement peu de temps, peut-être dans les dernières 20-30 années, les historiens du Brésil se sont intéressés à la question de l'islam, notamment les esclaves africains qui étaient donc musulmans avant de venir au Brésil, et puis la question de savoir ce qu'est devenu cet islam par la suite. Donc, première question, est-ce que ça serait quelque chose de relativement tardif, c'est-à-dire c'est plutôt une question de 18e, 19e et pas tellement de 16e, 17e? Et même si c'est 18e, 19e, est-ce que cette présence d'islam change quelque chose? Parce qu'il y a aussi la question, je pense, de l'arabe en tant que langue possible de communication qui peut se poser dans ce cas. Donc il y avait là une question, il y a une deuxième question, mais on peut revenir sur ça. Donc question de l'islam et de l'arabe dans le cadre brésilien.
Alors effectivement il y a de la présence d'esclaves islamisés, musulmans qui arrivent mais plutôt à la fin du XVIIIe siècle, notamment à cause de djihad importants dans la région du Nigeria, de l'actuel Nigeria qui était l'Empire du Bénin, à cette époque. Et du coup, par exemple, Jean-José Reyes a travaillé sur par exemple, les révoltes Haoussa, puis les révoltes des Malais au XIXe, qui sont donc les grandes révoltes urbaines du Brésil, des esclaves brésiliens du XIXe siècle, sont des révoltes fomentées par des esclaves musulmans. Et donc ça change effectivement, parce que, et notamment, il y a une dimension, par exemple, dans la révolte Haoussa de 1806, une dimension antichrétienne, notamment la révolte est prévue le jour de Corpus Christi, donc le jour de la fête religieuse. Et ces esclaves musulmans écrivent. Et donc, il y a aussi cette possibilité pour fomenter une révolte. Le fait de pouvoir écrire aide. Mais le front des esclaves n'est pas uni au Brésil, puisque ben, dans le cas de cette révolte à Oussa, ce sont d'autres esclaves et affranchis qui les ont dénoncés. Et les Haoussa n'avaient pas du tout l'intention d'abolir l'esclavage au Brésil. Ils avaient l'intention de devenir les maîtres, de tuer les Blancs et de mettre en esclavage les autres Noirs qui ne se seraient pas révoltés avec eux. Bon, ils viennent d'un monde aussi où se pratique l'esclavage. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas fait de recherche et je ne suis pas tombée sur des esclaves musulmans à l'époque jusqu'au premier XVIIIe siècle. Mais il y a une chose intéressante dans les constitutions sur les lois philippiques, enfin le code de loi civile du début du XVIIe siècle au Brésil, les esclaves ne sont pas obligés, quand ils arrivent adultes, d'accepter le baptême. Le baptême leur est proposé et c'est écrit noir sur blanc dans les constitutions qu'ils peuvent le refuser. Donc est-ce pour justement, est-ce que les esclaves musulmans de cette époque faisaient partie de ceux qui ont refusé le baptême? Ça serait intéressant de chercher là-dessus. En tout cas, c'est prévu par la loi que certains peuvent ne pas se baptiser.